When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
L'heure des pronos du vendredi, nous sommes en direct sur Kevin Bossuet. L'émission a commencé sur CNews. Ravi de vous retrouver. Kevin Bossuet, vous l'avez vu, est avec nous. Je vous fais la présentation des invités dans une poignée de secondes. Mais il est 20h passé d'une minute. D'abord, un point rapide sur l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir à vous.
Bonsoir Julien. L'Europe de juin 2022 différente de celle de janvier. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à Bruxelles lors du Conseil européen. La raison, selon le président de la République, la Russie qui a décidé de lancer une guerre, mais aussi parce que nous avons acté unis des décisions extrêmement structurantes pour notre union. Fin de citation. Une journée de grève nationale chez Total Energy à l'appel de la CGT. Les salariés réclament une hausse de salaire face à l'inflation. Une inflation qui pénalise leur pouvoir d'achat, alors que le groupe a engrangé en un trimestre un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros. Aux mondiaux de natation à Budapest, les Français continuent de briller sur le 50 mètres papillon. Mélanie Hennig décroche la médaille d'argent. Et puis chez les hommes, le bronze pour Maxime Grousset. C'est sur le 50 mètres nage libre avec un record personnel à la clé.
Et avec moi ce soir autour de la table, donc vous l'avez compris, Kevin Bossuet, professeur d'histoire géo en banlieue parisienne.
Bonsoir
cher Kevin. Najwa Laïté est à vos côtés. Bonsoir avocate, vice-présidente de Territoire de Progrès. Elisabeth Lévy, comme tous les vendredis, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir à vous et bonsoir à Patrick Julien. Roger, directeur général de Sud Radio.
Bonsoir.
Encore un habitué du vendredi. Cette décision, évidemment, en ouverture de l'heure des Pro 2 qui résonne comme un coup de tonnerre. La Cour suprême américaine a décidé, on l'a appris donc officiellement aujourd'hui, de révoquer le droit à l'avortement, comme l'avait laissé entendre il y a un mois environ le journal Politico. Cette décision, elle a une conséquence hautement importante. Ça veut dire que désormais, les États, chaque État américain est libre d'interdire ou non la pratique de l'avortement. Réaction du président des États-Unis qui s'est dit particulièrement attristé. Joe Biden, écoutez.
Aujourd'hui, nous vivons un moment peu solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a expressément privé les Américaines d'un droit. Ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays.
Emmanuel Macron a réagi il y a quelques minutes. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Une dernière réaction avant de faire un premier tour de table. L'État du Missouri, on l'a appris également dans la soirée, a été donc le premier dans la foulée de cette décision de la Cour suprême à annoncer sur Twitter un peu plus d'une heure après la décision américaine. Donc elle mettait cela en vigueur. C'est un jour monumental pour la sainteté de la vie. Les États-Unis font ce soir, Elisabeth Lévy, un retour en arrière de 50 ans.
Oui, alors excusez-moi, je sais que je vais m'attirer les foudres de tout le monde. D'abord, moi, je suis personnellement, non pas pour l'avortement, mais pour le droit à l'avortement. Et il y a une nuance, parce que c'est devenu, si vous voulez, une espèce de drapeau et on trouve ça génial. Non, c'est une faculté qui est laissée aux femmes et qui aurait dû d'ailleurs devenir beaucoup moins importante avec la généralisation de la contraception, qui me semble moins douloureuse, moins problématique. Je peux tout à fait comprendre, moi je suis pour, mais je peux comprendre que l'on soit contre. Mmh. Je peux comprendre que des croyants soient contre. Et
c'est pas la question du soir, Elisabeth, pardon de vous couper.
Non,
la question, c'est pas de savoir si vous êtes pour ou si vous êtes contre. La question, c'est de savoir si c'est autorisé ou pas.
Je dis ça en préalable.
D'accord.
Je suis... Parce que c'est devenu un drapeau. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à pourquoi l'avortement, parmi tous les droits... si vous voulez, des femmes est devenu ce drapeau avec la peine de mort. Il y a deux questions qui sont interdites de discussion, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je peux comprendre qu'on soit contre. Je ne le suis pas, moi, mais je peux comprendre qu'on soit contre. Deuxième chose, bien sûr, je pense que c'est une question qui doit relever, comme toutes les autres, de la démocratie. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a des élections dans le Missouri, ou alors si c'est un État totalitaire et fasciste, là, c'est un autre problème. Je suppose qu'il y a des élections, et je suppose que les électeurs ont le droit de s'exprimer sur ce sujet. Bien sûr, je ne méconnais pas que pour beaucoup de femmes, c'est une difficulté, mais encore une fois, je vous le redis, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout, je trouve ça, je connais pas assez ce qui s'est passé à la Cour suprême, pour être honnête, certainement, mes camarades, je vois que Patrick, lui, a bossé sur le sujet, va nous en dire.
En gros, vous avez 9 membres à la Cour suprême américaine, vous en avez 3 qui sont démocrates, pour caricaturer, enfin, pour résumer, on va dire, et 6 qui sont républicains, dont 3 qui avaient été nommés par Donald Trump, et ce sont ces juges qui ont statué donc en faveur de l'abrogation de cet arrêt qui date de 1973.
Que l'on va nous dire, ce qui me frappe...
Ah, ça fait un peu la fuite en arrière quand même, pardon,
Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce sont des sujets, qu'il y ait des sujets soustraits à la discussion. C'est-à-dire, et là je vous suis
rien n'est soustrait.
D'habitude, quand je commence une phrase comme
rien
ça,
n'est soustrait,
tout le monde hurle.
Là, rien n'est soustrait.
Et
on est en train de vous écouter.
Encore une fois, je suis désolée pour les femmes américaines qui devront changer d'état. Pour aller le.
Et ce seront évidemment les plus précaires qui seront les plus pénalisés, puisque ça sera évidemment un investissement d'autant plus important pour les femmes dans les plus grandes difficultés.
Certainement, mais encore une fois, je respecte aussi les croyances des autres. Voilà. Et c'est pour les questions difficiles qu'on doit faire cet effort.
Barack Obama a réagi très rapidement également sur les réseaux sociaux. Lisez avec moi. Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédents historiques, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qui soit, s'attaquant ainsi aux libertés fondamentales de millions d'Américaines. Donald Trump, dans un tout autre registre, cite lapidairement « C'est la volonté de Dieu ». Kevin Bossuet.
Oui, bah évidemment, là, on est dans la politique politicienne. Les républicains sont soumis, si vous voulez, au vote des évangéliques, parce que les évangéliques votent majoritairement pour les républicains. Alors après, je trouve que c'est un recul qui est quand même dramatique. Alors moi, je suis d'accord avec Elisabeth. On peut discuter de ce droit. Moi, je n'ai pas envie que ce soit une solution de facilité, mais c'est quelque chose qui doit être permis, et je trouve que normal que cela existe. Si vous voulez, en fait, c'est les États qui vont décider. Potentiellement, il y a 26 États qui vont rendre difficile l'avortement.
Eh ben regardez, on a une carte justement. On a une carte. Poursuivez, Kevin. Je vais juste indiquer. Alors, j'indique juste 2 choses à nos téléspectateurs et je vous demande vraiment pardon. Ces images déjà sont en direct que l'on voyait il y a un instant en direct de Washington où vous voyez des mouvements de foule et des manifestations. Et ces cartes qui vous font comprendre que en rouge vous avez les États qui sont quasiment majoritaires. Hein, c'est quasiment la moitié des États américains qui pourraient donc rapidement l'interdire. Et le Missouri qui est en Bordeaux, on va dire, qui l'a d'ores et déjà fait en gris des États démocrates qui eux a priori ne changeront pas la loi.
Ça
relève des États, des gouverneurs de chaque État américain.
Oui,
bien sûr.
Ce qui fait que dans les États conservateurs, les femmes vont devoir se déplacer, changer d'État pour pouvoir se faire avorter. Sauf qu'il va y avoir une barrière évidemment financière. Par exemple, une femme qui habite en Louisiane va devoir faire plus de 1000 km pour trouver une clinique afin, en effet, de procéder à cet avortement. Et puis même aux États-Unis, il n'y a pas les services publics que l'on a en France. Je pense par exemple aux crèches, ou alors ça coûte très 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 cher. Donc une mineure qui ne pourra pas avorter va être obligée d'arrêter l'école, ou une jeune travailleuse va être obligée d'arrêter son travail pour s'occuper de son enfant. Donc moi je trouve que c'est une remise en cause qui est en effet dramatique, mais encore une fois il faut insister sur la contraception, parce qu'en effet quand on arrive jusqu'à l'avortement, c'est pas la bonne solution, même si ça doit être possible, et il faut garantir ce droit aux femmes.
Le sujet ce soir, c'est en effet, mettons en avant les politiques de santé publique, parlons-en librement, et mettons en avant les moyens de contraception. C'est une chose. Là, on parle d'un droit fondamental, Najwa El-Haïti, qui est menacé dans la première puissance mondiale. Et beaucoup des gens qui nous écoutent, je pense, trouvent ça particulièrement inquiétant. Est-ce que c'est votre cas ?
Oui, 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 c'est un sacré coup. Alors, j'entends ce que dit Elisabeth en disant, bah, c'est vrai que c'est pas une intervention anodine. C'est d'ailleurs des femmes qui avortent, la plupart, hein, c'est la majorité, en sortent quand même atteintes. Hein. Je veux dire, autour de moi, j'ai des femmes qui ont procédé à ce type d'intervention, et autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Elles sortent de la clinique assez bouleversées. Donc, je pense sincèrement que c'est une minorité. Hein. Il y a toujours des femmes qui utilisent donc cette intervention par facilité ou par légèreté. Mais la majorité des femmes, je suis désolée, quand elles font ce choix-là, c'est que soit bah, financièrement elles peuvent pas assumer l'arrivée d'un enfant, soit parce qu'elles sont, ou soit parce qu'elles font hélas l'objet d'un viol. Hein. Il y a des viols qui existent. Vous avez des incestes.
Violée dans le Missouri ne pourra pas avorter des enfants.
Vous avez des incestes qui existent. Donc,
par exemple.
Voilà, il faut prendre en considération aussi ces situations qui sont particulièrement terribles. Mais j'aimerais ajouter que, hélas, cette actualité n'est pas surprenante. Parce que, comme vous le rappeliez, Donald Trump a nommé un tiers des juges de la Cour suprême qui sont particulièrement conservateurs. Donc.
Et un autre tiers avait préalablement été nommé par George W. Bush, ce qui fait qu'il y a six
Exactement.
Membres qui sont républicains
donc,
conservateurs
hélas,
à la Cour suprême américaine.
C'est une surprise.
Est-ce que tous les républicains sont contre l'avortement? Franchement, je ne crois pas.
A priori, alors il faudrait qu'on ait le détail du vote à la Cour suprême, mais a priori, tout cas, dans cette Cour suprême, a priori, le vote a été majoritaire, sinon ça ne serait pas passé. Patrick Roger, est-ce qu'il y a des choses, des principes fondamentaux sur lesquels on ne revient pas, un point c'est tout?
Je ne sais pas si on y revient, mais en tout cas, par rapport aux États-Unis, c'est un retour en arrière, non seulement par rapport en fait au pays, mais par rapport à ce que les États-Unis voulaient imposer au monde. Une démocratie et des droits pour l'ensemble en fait des pays. Et c'était un sacré pied de nez quand même, parce qu'aux États-Unis, on risque de devenir pire, pardon, mais pour le droit des femmes, que dans certains pays fondamentalistes où eux-mêmes, les Américains, ont voulu imposer une certaine démocratie. Il y a beaucoup de pays, hein, je crois qu'il y a 70 ou 80%, par exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique, encore de pays où le droit à l'avortement est restreint, voire interdit ou restreint. Les États-Unis ont mené des politiques actives avec beaucoup d'autres pays pour qu'il y ait ce droit, en fait, à l'avortement fondamental. C'était une avancée pour les femmes, pour toutes les raisons que vous avez explicitées. Et aujourd'hui, ce pays américain qui était porté effectivement comme un pied, qui portait en fait ces avancées en fait fondamentales, lui-même est en train de reculer en fait. C'est assez. Et par rapport à des pays, parce que c'est évidemment le religieux qui est derrière. Moi, c'est ça qui m'effraie. Mmh. C'est le religieux. Nous sommes dans des pays où certes nous devons respecter en fait les croyances des uns et des autres.
J'ai le sentiment qu'on est dans une régression.
C'est pour ça que je disais que par rapport au fondamentalisme, la religion ne doit pas s'imposer en fait dans un pays. Or là, c'est avant tout une volonté religieuse qui s'impose. Même les pays les plus catholiques, comme l'Irlande ou l'Argentine récemment. La Colombie avait fait un peu marche arrière. Certes, il y avait des limites, mais tout de même.
On en dit encore un mot. Elisabeth, je voudrais juste qu'on entende juste deux, trois témoignages d'Américains qui manifestent à Washington pour entendre leurs sentiments.
J'ai l'impression que c'est un point historique où l'Amérique attaque le féminisme et les soins de santé. J'avais l'impression que ma fille devait le savoir ou commencer à le comprendre. J'ai été élevée par des féministes, donc c'est extrêmement bouleversant que les choses pour lesquelles elles se sont battues si durement puissent être rappelées.
Je ne veux rien de plus que d'être mère, mais je veux que cela se passe selon mes propres conditions. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont perdu la chance de vivre leur vie parce qu'elles ont été forcées d'avoir des enfants qu'elles ont peut-être appris à aimer, mais qu'elles n'étaient pas en mesure d'élever. Je pense juste que le choix d'une femme, c'est tellement crucial. C'est pourquoi je suis ici.
Et le pire, ça dépend de quel point de vue on se place, mais c'est que ça pourrait aller encore plus loin, parce que vous avez ces activistes pro-life, donc qui sont les plus fervents anti-avortement, qui, selon le Washington Post, donc, nous disent qu'un groupe de sénateurs conservateurs travaille actuellement sur un projet de loi qui interdirait l'avortement dans tout le pays après 6 semaines de grossesse. Ils se coordonnent avec de possibles candidats républicains à la présidentielle de 2024. Ce que je comprends, c'est qu'on est sur une boîte de Pandore, que ça peut aller, il y a aussi une loi pas, par exemple, un arrêt comme ça qui date de plusieurs décennies aux États-Unis pour évidemment donner droit à l'homosexualité. Pourquoi pas, dans quelques années, interdire l'homosexualité aux États-Unis? C'est le chemin que ce pays est en train de prendre.
D'abord, on peut effectivement déplorer. En y assistant, nous ne sommes pas américains, on peut tout à fait déplorer ce que devient la société américaine, parce que je ne crois pas que la Cour suprême soit, si vous voulez, totalement détachée des évolutions de la société américaine. Je voulais rebondir un tout petit peu, si je peux, ce qu'a dit Najwa. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce que vous avez dit va vous valoir, ou vous aurez valu, les foudres des féministes. Pourquoi ? Parce que il y a quelques années, j'avais été très frappée par cela. Arte, chaîne tout à fait progressiste, avait diffusé un documentaire dans lequel des femmes parlaient de leur souffrance liée à l'avortement. Et les féministes s'étaient déchaînées. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que ce qu'on essaye, moi je suis, encore une fois, si on devait, si quelqu'un voulait s'y attaquer en France, je le combattrais. En revanche, j'ai été très choquée quand les députés ont voulu étendre le délai jusqu'à quasiment la naissance. Et si vous voulez, d'un côté, il faut se battre contre les gens qui veulent enlever ce droit. Mais d'un autre côté, je crois qu'on n'a pas aucune raison d'accepter sa banalisation.
C'est pas la question.
Ouais. Non, mais si, c'est aussi la question.
Non, mais c'est intéressant de l'entendre et d'en discuter. C'est intéressant, en effet. Vous avez raison, ça alimente le débat. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très précis, sur une Amérique qui nous effraie.
C'est pas le seul.
20h15, 20h16 même. Oh. Mathieu Devez, bien sûr.
C'est la Bible.
Toujours.
Plainte a été déposée contre elle. La secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et violences gynécologiques. L'inflation devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022, du jamais vu depuis 1985. Une flambée qui va peser sur l'économie, avec une croissance attendue à 2,3% en 2022. Un coup dur annoncé pour le pouvoir d'achat des ménages en dépit des mesures de soutien public en place ou annoncées. En rugby, la finale du top 14 oppose ce soir le Castres Olympique à Montpellier au Stade de France. Coup d'envoi bientôt à 20h45. Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois en finale de top 14. C'était en 2018 avec une victoire de Castres.
Ah, top 14, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas du chant alors.
Comment ? De quoi ?
Pas du chant alors, top 14. C'est top pas
14. Pourquoi ce serait du chant ?
Il y avait un truc qui s'appelle pas. Il y a pas un truc.
C'était
de...
top, oh,
top 50. Top 50.
Oh là là, oh là là, oh là là. Merci Elisabeth. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez.
Ouais.
On poursuit la conversation. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Je vais rester sérieux parce que c'est quand même assez dramatique ce qui se passe. Donc grand malheur, dit Jean-Luc Mélenchon. Le pays de Trump légalise le port d'armes dans les rues et permet l'interdiction de l'avortement. Alerte, dit-il. Il nous renvoie à notre politique nationale. On connaît les canaux de contagion des USA en France, Kevin Bossuet.
Ah, pour une fois, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, quels sont les canaux de contagion des USA en France ?
Il exagère évidemment, il fait de la politique politicienne, il essaye de s'inscrire dans le camp du bien. Évidemment qu'en France, le droit à l'avortement n'est pas menacé. Nous ne sommes pas les États-Unis, parce que c'est vrai que quand on regarde les sondages, j'ai vu un sondage tout à l'heure qui montre qu'il n'y a seulement que 61% des Américains qui estiment qu'il ne faut pas restreindre l'avortement. Il y en a même, vous voyez, c'est quand même un chiffre qui n'est pas aussi grand que ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est une régression. Je vais prendre l'exemple de la Pologne, parce que ça se passe également en Europe. J'adore la Pologne. Je vais encore y aller cet été. Moi, je suis de culture catholique. Mais c'est juste pour vous dire, mais il y a quand même une forme de régression. Et ce qui m'a le plus choqué au cours de ces dernières semaines, c'est ces Ukrainiennes qui ont été violées, qui n'ont pas pu se faire avorter en Pologne, tout simplement parce qu'il y a une restriction de ce droit. Donc moi, je trouve qu'on peut...
Une restriction.
Je pense qu'on peut être catholique, être très attaché à la vie, défendre évidemment la famille, mais de l'autre côté aussi, permettre ce droit qui est fondamental, parce que la situation de ces femmes ukrainiennes, c'est révoltant.
Il y a des États en Europe qui interdisent l'avortement. Alors ce sont des micro-États. Hein. Le Vatican, Saint-Marin, Andorre et Malte interdisent l'avortement.
Wokisme qui nous vient des universités américaines. Il est
un dernier mot sur Jean-Luc Mélenchon.
Ça lui reviendra peut-être comme un boomerang, effectivement, parce qu'il soutient certaines communautés qui, parfois, par rapport à l'avortement, ont quand même un problème. Quoi.
Bon. Bon,
et puis quand,
d'ailleurs,
quand c'est le wokisme qui vient des États-Unis, je ne l'entends pas hurler pour les canaux de diffusion des stupidités américaines
bien
en
sûr.
France.
Les indignations à géométrie variable. Ce qui lui est revenu comme un boomerang à Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours, c'est cette fameuse phrase sur la police qui tue. Eh bien, ça m'offre une transition, puisque le deuxième plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale, Louis Boyard, vous découvrez peut-être ces derniers jours son visage. Son visage et son nom, oui, il est très fort, Boyard. Il reprend à son compte, bravo encore Isabelle, vous êtes en forme ce soir, dites-moi, entre le top 50 et Fort Boyard. Il reprend à son compte les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police qui tue. L'élu NUPES LFI du Val-de-Marne était chez nos confrères d'RMC, écoutez tout à l'heure.
Sur cette question-là, il y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où Mélenchon avait dit « la police tue ». Et c'est un fait que la police tue. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui a été qui est mort noyé après une charge de police, où ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit.
Patrick Roger, c'est dangereux de reprendre ses propos. Bah, alors, il est dans son rôle de nouveau député qui veut marquer les esprits.
Bah, non, mais de toute manière, il est dans ce camp, effectivement, d'une gauche extrême qui défend cette position depuis Philippe Poutou, qui lui-même, le premier, avait dit « la police tue », etc., après certaines manifestations. Oui, il y a des morts, effectivement. Les policiers ont dit entre 10, 15 par an, bien sûr, lors des interventions. Mais vous savez, plus une société est violente, plus il y a des morts causées probablement par la police parce qu'elle est obligée d'intervenir. Aux États-Unis, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est environ 1500 personnes tuées par an par les policiers. Au Brésil, société ultra-violente, c'est 6000. En France, on en est allé à 10, 15, effectivement, dans des interventions qui sont extrêmement délicates. Et plus c'est délicat, eh bien plus il y a ce risque.
C'est un député ou c'est un agitateur ?
Moi, je pense que c'est un agitateur. Je rappelle que les propos qu'il tient quand il dit « la police tue », après, il faut voir si elle a le droit ou pas le droit. Il reprend simplement les propos de mon confrère Henri Leclerc, qui a tenu sur une autre chaîne ces propos-là. Après, il faut savoir que depuis 2017, la loi autorise les policiers à utiliser leurs armes en cas de refus d'obtempérer et dans un contexte où leur vie serait mise en danger. Après, j'ai envie de vous dire...
Et là, on n'est même pas sur les textes de loi ou sur ce que permet, ce que permet le monopole de la violence légitime. On est sur un député de 22 ans qui reprend des propos, des facilités de langage qui permettent toutes les dérives.
Mais pour terminer, j'y arrive. J'y arrive. Donc là... j'ai fait un peu de droit puisqu'il reprend les propos du contraire. Donc j'ai fait un peu de droit, mais ensuite on sait très bien que LFI a toujours surfé sur cela en considérant les policiers comme des barbares. Là, bien sûr, qu'ils utilisent cette phrase-là pour jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police, sur l'ensemble de l'institution.
C'est amusant parce qu'il aurait pu rappeler aussi
judiciaire.
Qu'il y a des policiers qui meurent chaque année.
Sauf que je vais vous dire, et là je rebondis sur ce que vous venez de dire, Julien Pasquet, c'est que moi je n'ai pas entendu LFI quand il y a eu à Viry-Châtillon des policiers qui ont été brûlés au troisième degré parce qu'ils étaient à côté d'une caméra qui surveillait le trafic de drogue. Et bien là, on n'a pas entendu LFI s'émouvoir de ce terrible drame qui a concerné la police. On n'a pas entendu non plus, il y a deux jours, il y a eu des policiers qui se sont fait lyncher par des trafiquants de drogue
en Seine-Saint-Denis.
Et bien là, est-ce qu'on les a entendus ?
Non.
Et bien moi, j'estime que pour eux, c'est un fonds de commerce, vous voyez. C'est un parti pris politique et que je regrette sincèrement.
Kevin,
je suis scandalisé de la part de ce député qui est finalement un spécialiste de l'agit-sale. Je veux dire, à partir du moment où on met en cause la police républicaine, on remet en cause la République et on remet en cause notre pays. Et moi, ce qui me tue, c'est que ce genre de phrase participe...
Il n'apporte rien au débat, en fait. Il le ferme même.
Pire,
c'est en ça que c'est inacceptable.
C'est
qu'il ferme un débat.
Bien sûr, et ça participe au séparatisme parce que les jeunes dans les banlieues ont l'impression que finalement... Ah oui. La la police est contre eux. Et ce genre de propos n'est qu'électoraliste. Je peux vous dire que dans les banlieues françaises, en Seine-Saint-Denis, où il y a quand même 12 députés NUPES sur 12, ça a fonctionné, ce genre de propos. Mmh. Parce que ça sort sur cette haine anti-flic. Et nous, enseignants, moi qui enseigne dans ces banlieues difficiles, ce genre de propos nous sape le travail. Parce que nous, qui incarnons la République, nous défendons évidemment ces policiers. Nous essayons de faire comprendre à ces jeunes que la police n'est pas contre eux, mais que la police est avec eux. Et tenir ce genre de propos est irresponsable. Et moi, ça me scandalise.
Allez, en 20 secondes, je vais envoyer la pub et on en reviendra. Vous savez quoi ? On va envoyer la pub, on va entendre Mathieu Vallet du syndicat des indépendants des commissaires de police qui réagissait tout à l'heure. On redit un ou deux mots avec vous et puis on avancera. Une pause. À tout de suite pour l'heure des pros 2. La deuxième partie de l'heure des pros 2 dans une poignée de secondes à quasiment 20h30. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
Un appel à la grève nationale des cheminots pour le 6 juillet, veille des vacances scolaires. Ils demandent une augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation, laquelle pourrait atteindre en juin 5,9% sur un an, selon les nouvelles prévisions de l'INSEE. Un an de prison, dont 6 mois avec sursis, requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide entre 2007 et 2008. Au Maroc, 5 migrants morts et 76 blessés lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe.
On revient encore quelques secondes sur les propos tenus par Louis Boyard dans la foulée de Jean-Luc Mélenchon. Il a réitéré donc le fait que la police tue, c'est un fait, il dit ce matin à la radio. Patrick, je crois qu'on ne vous a pas encore entendu sur le sujet. Je voudrais juste qu'on entende Mathieu Vallet qui était chez nous tout à l'heure chez Patrick.
Non, mais si on l'a entendu.
Non, mais on ne l'a pas entendu. Non, je ne l'ai pas lancé encore. Pardon. Qu'est-ce que vous racontez, Elisabeth ? Mathieu Vallet, donc, qui réagissait tout à l'heure, et Patrick.
Moi, je suis pas étonné. Monsieur Lubert, c'est un ancien voyou. Il avait reconnu sur C8 qu'il avait dealé. Donc, on sait que le parti de Monsieur Mélenchon, c'est le premier parti des voyous de France. Enfin, à chaque fois, on a une parole pour les voyous et pas pour les policiers. En tout cas, non, c'est désolant. Et puis surtout, c'est des voyous qui tuent. C'est pas la police qui tue les voyous, qui tous les jours percutent nos collègues sur des refus d'obtempérer. Les voyous qui tous les jours n'hésitent plus à utiliser de la violence. Notamment, on l'a vu à Saint-Denis contre des policiers municipaux qui faisaient leur travail et qui rassuraient les gens et qui prenaient attache avec les commerçants. Et surtout, vous savez, sur cette affaire de la police qui tue, c'est clairement pour la cuvée électorale 2022. Enfin, il y avait déjà son patron qui avait fait le coup il y a 2 mois, ce qui, à mon avis, leur a coûté quand même pas mal de difficultés, puisqu'on voit bien que les Français, à 72%, même à 80%, sont dans un sondage soutiennent leur police.
J'ai fait une bêtise, c'est Elisabeth qui s'est
encore exprimée. Vous ne croyez
pas. Faire de la police les ennemis des citoyens. Voilà.
Non, mais d'abord, c'est pour ça que je souscris à peu près à tout ce que
Lou Boyard, quand il aura un problème, je suis sûr qu'il fera le 17 comme tout le monde. Hein.
A priori. Je souscris évidemment à tout ce qu'ont dit mes excellents camarades. J'ai juste peut-être une nuance à introduire par rapport à ce qu'a dit Kevin. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout convaincue que ces propos de Jean-Luc Mélenchon les servit partout. Je ne crois pas, parce que évidemment, les gens dans ce pays, les sondages nous le disent tout le temps, les gens dans ce pays veulent de l'ordre, ils respectent la police. Patrick a donné des chiffres tout à l'heure qui étaient intéressants, parce qu'on voit que, évidemment, ça arrive, mais c'est quand même rarissime par rapport au nombre d'interventions de la police, et c'est pratiquement dans 100%
Vous avez entre 20 et 25 000 refus d'obtempérer par an.
Je pense qu'il doit y avoir peut-être...
Toutes les 20 minutes.
Oui, c'est toujours lié au refus d'obtempérer. J'aurais voulu dire un mot sur ce que dit Boyard sur Traoré, qui est juste un mensonge et une diffamation pour les gendarmes. Je connais bien le dossier. Adama Traoré n'a pas été violenté par les gendarmes. Il a essayé de se sauver à 3 reprises. Un jour, on voulait l'arrêter par 40 degrés. C'était un jour de canicule. Et il avait un cœur visiblement un peu fragile. Et il ne serait pas mort s'il n'avait pas essayé de se sauver.
On ne peut pas tout dire sur cette question qui est en instance également. Il y a des plaintes en cours,
tout ce que vous voulez, et un comité Adama Traoré qui fait beaucoup de bruit, mais c'est pour ça. Eux, ils disent toute la journée que la police a tué Adama Traoré, donc moi je le dis haut et fort, les gendarmes n'ont pas tué Adama Traoré.
Et vos propos vous appartiennent. Voilà. Qu'on pose la question et qu'un député qui plus est pose la question de la violence légitime dans notre nation, des règles qui la régissent, de la loi, est-ce qu'il faut la réglementer plus, moins, c'est une chose. Mais dire que la police tue, c'en est une autre.
Parce que c'est pas ce qu'il a dit.
Non, mais, bien sûr. Non mais je dis quoi. Il n'y a pas de tabou sur la violence légitime qui peut être discuté. Oui. C'est juste de tenir des propos comme celui-là.
Avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus une société est violente, plus il y a des interventions, plus c'est dans un climat difficile. Bien sûr. Comme les policiers vous le disent, la police ne fait plus peur aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça a quand même de l'écho auprès de certains dans la population.
Il n'y a jamais un policier qui sort son arme pour le plaisir.
Non.
C'est important de le dire.
Comme elle ne fait plus peur. Comme il y a aussi ce discours « la police tue », eh bien, ces jeunes, parfois, qui peuvent être confrontés dans des situations, etc., peuvent aller, en fait, plus loin. Et résultat, de la panique, en fait, de l'autre côté, de la part des policiers, voilà. Ce qui est assez terrible. Oui. Ce qui s'est produit récemment à Paris, que ce soit sur le Pont Neuf ou dans le 18e
arrondissement. Et Lou Bayard, il a son petit Marocain au Palais Bourbon, mais on rappelle aussi que pendant une intervention, la décision, elle se prend en une fraction de seconde.
Et d'un mot, peut-être.
Et c'est facile de juger à posteriori aussi.
Quand même, c'est assez particulier, parce que c'est vrai, nous en parlions tout à l'heure ensemble, il a 22 ans, c'est un jeune député qui arrive.
Et on le félicite d'être député de la nation, il n'y a aucun problème.
Il a battu l'un des hommes forts de la potentielle. De la Macronie, Laurent Saint-Martin, qui aurait pu être ministre du budget. C'est quand même assez incroyable. Quoi.
Parlons d'Emmanuel Macron. Ça fait deux fois que vous m'offrez une transition passe décisive. Vraiment, c'est sympa.
Hein. Votre petit...
Ah ouais, c'est un petit duo qui fonctionne. Hein. Emmanuel Macron rattrapé par les législatives. Le chef de l'État, qui, vous le savez certainement, est en plein marathon diplomatique en ce moment. Hier et aujourd'hui, c'était sommet européen. Il va se rendre au G7 en Allemagne. Il va enchaîner sur celui de l'OTAN à Madrid jusqu'à jeudi prochain, de Bruxelles à Paris. En tout cas, il y a un leitmotiv, c'est construire, bâtir. D'après le président, ça marche au niveau européen. Donc pourquoi pas en France, Macron, Emmanuel Macron ou l'art du compromis. Écoutez.
C'est nouveau. Considérer que notre Europe doit être une Europe démocratique et forte et déplorer le fait que la plupart des gouvernements et des parlements reflètent la vitalité démocratique de nos pays. Et il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir. Parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue, d'ailleurs, en 1988, peu de choses de différence, mais elle est surtout affreusement banale au niveau européen. Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et certains avec 5, 6, 7 partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives.
Je peux révéler ce que vous avez dit en off quand on a entendu le chef de l'État ou pas ?
Oui, vous pouvez.
Najwa El Haïté, quel baratin, disait Elisabeth Lévy pendant qu'on écoutait le chef de l'État.
À propos de ce qu'il disait sur l'Europe.
Najwa El Haïté, je le précise encore une fois à nos téléspectateurs, vous représentez l'aile gauche de la Macronie, un territoire de progrès. C'est pour ça que je me tourne vers vous en particulier.
Donc vous comprendrez que je ne partage pas.
Il est dans la carabistouille, chef de l'État. Oui.
Voilà.
La France sait bâtir des compromis, elle en fait à Bruxelles, mais à Paris, on cherche encore.
Non mais moi je vais vous dire, vous avez un président de la République qui dédramatise les choses. D'ailleurs qui avoue qu'on est passé d'un régime présidentiel absolu à un régime parlementaire.
Il le dit. On m'a reproché d'avoir trop de pouvoir.
Et d'ailleurs il le rappelle même que cette mandature dépendra de ce que les groupes parlementaires et les formations politiques feront.
Donc, c'est l'habileté des derniers jours, de renvoyer les oppositions face à leurs responsabilités.
Dans 15 jours, il va nous dire c'est ce qu'il voulait.
Voilà,
je pense.
Non, mais après, moi,
qu'il avait tout prévu.
Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais en tous les cas, là, il y a une situation. Et donc, moi, je comprends que le président de la République, pour éviter, bien sûr, que les débats au sein du Parlement sont salutaires. D'ailleurs, ça manquait, je vous le dis. Mais il s'agit d'éviter la paralysie du Parlement.
C'est très bien de dire ce qu'il veut. Mais en revanche, ça serait bien de nous dire comment. Comment il va faire ?
Eh ben, c'est pour ça qu'il a rencontré, je termine là-dessus, c'est pour ça qu'il a rencontré les différents chefs de parti pour trouver.
Ah bah, apparemment,
une
c'était constructif.
Est-ce que sur certains textes, il y aura
ça
des renforts.
Ça s'est bien passé, j'ai cru comprendre.
Des renforts, et je terminerai par là, des renforts de droite ou de gauche concernant certains textes. Et je pense qu'on va par là. Enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais au regard des...
La godille.
Voilà, on irait plutôt vers ça. Et franchement, je vois mal des groupes politiques et parlementaires d'opposition s'opposer à un projet de loi concernant le pouvoir d'achat.
Patrick, qui est évidemment le nez dans la politique 24 heures sur 24, je me souviens du discours après sa réélection sur le fameux changement de méthode. Je ne suis pas un président réélu, je suis un nouveau président. Mais rien ne change, en fait, parce que le chef de l'État, il reste à la manœuvre. Il gère tout seul. On a vu mercredi l'allocution. Il n'a pas cité une demi-seconde sa première ministre. Emmanuel Macron est égal à lui-même.
Oui, mais je pense qu'il ne change pas de méthode, mais en revanche, sans perdre pied, quand même, il a été déstabilisé. Il ne le montre pas. Il essaie de ne pas montrer. Et ses 8 minutes de l'autre jour étaient, à mon sens, illustraient pleinement ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas cité la première ministre parce que il ne voulait.
Une fonction.
C'est la fonction. Bon,
elle se fait appeler la première ministre, non, donc on va respecter son choix.
Il voulait garder le cap lui-même, montrer que c'est lui qui tenait la barre. Et quand il le montre à ce point-là, c'est qu'il ne la tient pas bien et que lui-même est un peu perdu. Je le pense très honnêtement. Oui, et qu'il n'y a pas une stratégie aussi claire face à ça, parce qu'il ne pensait pas avoir des oppositions aussi fortes de chaque côté.
Moi, je pense que ma voisine confond dédramatisation et déresponsabilisation. La vérité, c'est que Emmanuel Macron n'est responsable de rien. L'échec de dimanche dernier, c'est son échec personnel. Et moi, ce qui m'a le plus marqué,
c'est qu'il a gagné quand même.
Quand il fait reposer le blocage potentiel sur les autres partis politiques, moi, ça m'effraie. Si ça ne fonctionne pas, ce ne sera pas de ma faute. Ça sera de la faute des Républicains ou ça sera de la faute tout simplement de la NUPES ou encore du Rassemblement National. Mais c'est inacceptable. On est passé d'un Jupiter tout-puissant à un Jupiter de carte postale qui n'a absolument prise sur rien et qui est complètement dominé par cette situation.
De toute façon, il n'a pas 36 solutions. On dit depuis une semaine, soit il entre en coalition avec la droite, ou le centre-gauche, soit il tente le pourrissement et puis on verra ce que ça donnera.
Le résultat de dimanche dernier, c'est la défaite du « en même temps », c'est la défaite de la technocratie et c'est la défaite de l'aile gauche de La République en Marche. On attend un remaniement et on attend un cap parce qu'Emmanuel Macron, à force de faire son en même temps, on ne sait pas où il veut aller. Ouais. Nous sommes dans une période de crise, nous avons besoin d'une vision pour ce pays.
Je voudrais juste qu'on voit ce que dit tout de suite vers vous.
Mais
pas du tout. Non, au contraire, je vous apporte des éléments pour être encore plus brillante, chère Elisabeth. Jean Rottner, dans les colonnes du Parisien, président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui appelle à une forme de coalition. Il va falloir apprendre à travailler avec Emmanuel Macron. Lui, comme Jean-François Copé, ont appelé à cette forme de coalition, de compromis. Il y a juste un souci, c'est qu'aucun des deux n'est député et qu'a priori, ce sont les députés qui vont décider d'une coalition.
Ils n'ont qu'à rejoindre la Macronie, ils n'ont qu'à rejoindre
Donc voilà, qu'ils fassent des appels du pied, qu'ils donnent des leçons, mais en l'occurrence, il y a des députés LR qui sont là pour décider en conscience. Elisabeth Lévy.
Je voulais préciser que quand je disais qu'il y a le baratin, même si ça peut s'appliquer au reste, c'était essentiellement sur ses propos sur l'Europe, parce qu'en fait, toutes ces grandes propositions mirifiques sur l'Europe, on sait que lui est fondamentalement post-national et plutôt fédéraliste et que personne n'en veut en Europe. C'était là-dessus que je disais, c'est du baratin en fait, parce que finalement, moi je suis très contente que ça se passe comme ça, mais il avait de grandes ambitions pour l'Europe. Maintenant, je voudrais reprendre ce que vous avez dit. En fait, c'est eux qui ont fait d'un revers une déroute. Pourquoi ? D'abord, parce que effectivement. Moi, ça ne me paraît pas anormal que dans un pays où il n'y a plus deux grandes forces politiques, il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Sauf que qui a demandé au pays, avec les moteurs de l'avion qui est tourné derrière, de lui donner une majorité claire ? C'est lui.
Bien sûr.
Donc, c'est évidemment son
échec.
C'est le chaos. Et malheureusement, je crois qu'au contraire, parce qu'il a dit aussi un gros mensonge dans son allocution de l'autre jour. Moi, ça, j'ai éclaté de rire quand il a dit ça. Il dit « Vous m'avez élu sur un projet clair ». Alors c'était génial. Ça, c'était vraiment la blague du jour. Mais je me suis vraiment marré en entendant ce mot. Celle-là, il est gonflé quand même. On sait. Personne ne savait ce qu'il voulait faire pour le pays. Personne. Peut-être Najwa,
ça serait même des infos. Parce que...
La réalité, c'est qu'on va assister à l'institutionnalisation du « en même temps ». C'est-à-dire qu'il va jouer les uns contre les autres. Il va essayer de faire peur à la droite avec le grand méchant Mélenchon qui va venir vous manger les doigts de pied la nuit si jamais vous votez pas avec moi. Et il va invoquer la réaction qui arrive si les mélenchonistes essayent de le faire tomber. En réalité, il n'a pas de majorité contre lui. C'est pour ça que ça n'est pas... Il n'y a pas de majorité absolue.
Oui.
Donc, c'est quand même le premier parti de l'Assemblée.
Il a des cartes en main et il n'est pas complètement...
Tant qu'il n'y a pas des partis qui sont prêts à s'unir, je finis cette phrase... pour faire tomber le gouvernement, à mon avis, il peut très bien s'en sortir, mais on a l'impression qu'il a perdu la niaque.
Un petit peu, ouais. Mais c'est le syndrome Casanova. Je ne sais plus qui disait ça sur nos antennes.
Tout le plaisir de l'amour et de la conquête.
Le plaisir de la conquête, et puis une fois que les choses sont acquises...
Ça, bon.
Comment dire ? Oui, les ministres, pardon. On a compris qu'Elisabeth Borne s'accroche depuis dimanche. On verra son avis. En tout cas, elle ne paraît pas officiellement être en sursis. En revanche, on a 3 ministres qui ont été battus. Les nominations sont attendues dans les prochains jours. Il va falloir bien choisir, là, parce que les erreurs de casting, elles commencent à être nombreuses dans ce nouveau gouvernement.
Finalement, le principal problème, je pense, d'Emmanuel Macron aujourd'hui, indépendamment de l'Assemblée et de ce que l'on vient de dire, où il a quand même une majorité qui est relative, il n'a pas pour faire passer tous ses textes, mais on verra, il peut trouver des alliances de circonstances. Et c'est ce qu'il essaiera de faire, comme le disait très justement Elisabeth, en renvoyant un jour la responsabilité, boum, à droite, de l'autre côté, boum, à gauche, etc., d'aller chercher en les plus centristes Non, après, c'est son gouvernement. Il faut qu'il ait un gouvernement à la hauteur de la tâche, en fait, pour la France. Il y a des défis considérables. Il y a des secteurs où ils attendent toujours... On a beaucoup parlé du logement. Par exemple, aujourd'hui, tout le secteur du logement attend. Ils sont là, en fait, en train de se dire, mais... Et nous, alors...
C'est une composition ratée, ce gouvernement ?
Bien sûr, complètement, totalement. C'est-à-dire qu'il a fait un casting marketing. Je mets telle personne pour essayer de séduire tel camp...
De Papendia et à Damien Abad.
Voilà, au ministère de l'Éducation nationale. Et de plus en plus, il y en a, mais est-ce qu'ils se posent des questions par rapport à Papendiaï, indépendamment de l'idéologie, mais sur le fait qu'il soit capable d'entraîner cette grande machine qu'est l'éducation nationale. C'est autre chose. Et il y a énormément de secteurs. La santé, vous imaginez, il a mis quelqu'un à la santé en place. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Enfin, elle est toujours là, mais elle va partir.
On va se marrer avec Olivier Véran, ministre des Relations avec le Parlement. On va rigoler quand même.
20h45, Mathieu Devez, et on conclut. On va parler de Chrysoula Zakharopoulou, également une ministre de plus dans la tourmente. Mathieu Devez.
Aux États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Joe Biden dénonce ce soir une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste. 40 pays en quête de solutions pour résoudre la crise alimentaire lors d'une conférence à Berlin. L'Allemagne accuse la Russie de prendre le monde en otage en utilisant la faim comme arme de guerre. L'invasion russe de l'Ukraine, avec notamment le blocus imposé aux ports de la mer Noire, fait grimper les prix des denrées alimentaires et contribue à la flambée mondiale de l'inflation. Les vaccins contre le Covid-19 ont évité près de 20 millions de morts l'année dernière. Ce sont les conclusions d'une première vaste étude de modélisation. Une étude basée sur des données provenant de 185 pays et territoires. Les pays à revenus élevés et intermédiaires représentent le plus grand nombre de décès évités, près de 12 millions, ce qui traduit les inégalités dans l'accès aux vaccins dans le monde.
Un mot de la situation donc de Madame Chrysoula Zakharopoulou. Après Gérald Darmanin et Damien Abad, la nouvelle secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie fait l'objet d'une enquête par 2 plaintes pour viol et une 3e plainte pour violence sans incapacité de travail par personne chargée d'une mission de service public. Elle juge ces accusations inacceptables, des accusations, je la cite, « graves à mon encontre, portant sur des examens cliniques médicaux réalisés afin de diagnostiquer et de soigner des maladies de mes patientes. » Elles sont inacceptables et révoltantes. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais que chacun en dise un mot. Écoutez d'abord le témoignage d'une patiente plaignante. C'était chez nos confrères d'RTL.
Au rendez-vous, elle est arrivée en retard, en tenue de sport, avec un sac de sport. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un poing qu'on m'enfonçait. J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et elle a dit, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase m'a sidérée, en fait. Elle appuyait, ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit, mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service elle m'a dit, c'est très bien, c'est important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. Derrière tout ça, je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
Ancienne gynécologue, donc elle est accusée d'avoir commis ces crimes quand elle exerçait à l'époque dans les hôpitaux parisiens sous la direction d'Émile Daraï, visé lui-même par une information judiciaire pour viol et violence gynécologique. Ça commence à devenir ingérable, ces accusations autour de membres du gouvernement, Najwa El Haïté.
Oui, en tous les cas, c'est des accusations qui restent, j'allais dire, à prouver. Attention au tribunal.
Présomption d'innocence, évidemment, mais ça commence à faire beaucoup.
Oui, ça commence à faire beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, moi, je ne connais pas ce dossier, on parle de violence gynécologique, mais là, il y a une enquête en cours. Attention, vraiment, je suis redondante, mais attention à la dangerosité du tribunal médiatique qui vous dit que ce dossier n'est pas vide. Tout est une question de preuve. Ouais. Après, en termes d'image par rapport au gouvernement, je ne vais pas vous dire, ça n'a aucun impact, circuler, il n'y a rien à voir.
Pardon, excusez-moi.
En termes d'image, oui, c'est dérangeant, oui. Mais au niveau juridique et judiciaire, il faut des preuves. Attention au tribunal.
On arrive à la fin de l'émission. Elisabeth, je vous laisse vous exprimer.
Excusez-moi, dans ce qu'on entend, je trouve que maintenant le mot viol est un peu mis à toutes les sauces. Exactement. Si vous voulez, ça devient complètement dingue. Deuxièmement, je suis très frappé que les électeurs aient réélu Damien Abad, malgré les accusations qui pèsent contre lui. Donc, je pense que le public se lasse aussi de ces accusations et je jette à votre réflexion avant que nous nous quittions. Je me demande, parce que c'est vrai, ça peut détruire des villes à l'accusation de viol. Peut-être qu'elle fait mal son boulot, mais l'accusation de viol me paraît quand même... Bon, j'en sais rien, mais je me demande si on ne devrait pas quand même imposer maintenant, assez strictement, concernant des personnalités publiques dont ça peut détruire la carrière, silence absolu, je veux dire, sur les plaintes, parce qu'il y en a marre.
Bon, on reparlera forcément dans les jours et les semaines qui viennent de ce dossier, et on verra ce qu'il en sera. Merci à tous les quatre, merci aux téléspectateurs de CNews de nous suivre fidèlement. Benjamin Haut, Corentin Brioux ont préparé cette émission. Elliot Deval prend la suite pour Soir Info. Je souhaite un magnifique week-end sur les antennes de CNews. À très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.